Bon, ben Ray, avant qu'on parle de tennis, l'ouverture demain des internationaux des États-Unis, une bombe! Et écoute, c'était attendu. Les Hurricanes de la Caroline ont fait une offre hostile pour tenter d'obtenir Jesperi Kotkaniemi.
Oui, Paul, salut. Et puis, salut. C'est un moment rare. On voit pas ça souvent, des offres hostiles. Parce que justement, le mot hostile défini, c'est pas souhaitable, c'est pas le bienvenu. Puis lorsque Marc Bergevin a agi vis-à-vis les Hurricanes en 2019, à peu près à la même période, là, en juillet 2019, ben, il s'est créé un ennemi de longue date. Et M. Dundon, le propriétaire des Hurricanes, ne l'a pas digéré. Il attendait le moment. Puis le moment est arrivé maintenant, Paul, parce que quand les Canadiens avaient posé ce geste-là pour tenter de signer Sébastien Aho, qui est un des grands prospects des Hurricanes, un jeune qui a tellement de talent, ben, il savait que les Hurricanes n'avaient pas, si on veut, la liquidité pour payer littéralement plus de 8 millions de dollars à un gars comme Aho. Alors, non seulement les Canadiens voulaient l'acquérir, mais ils savaient aussi que les Hurricanes étaient dans une situation qui était plus difficile. C'est avant la pandémie, mais les Hurricanes n'ont jamais eu beaucoup d'argent, et M. Dundon lui-même est reconnu pour être, mettons, très serré avec son portefeuille. Alors, il a attendu l'occasion de poser ce geste-là, sachant que les Canadiens sont maintenant dans une situation très particulière. On sait que Kotkaniemi est un prospect à long terme, mais aujourd'hui, il ne vaut certainement pas 6,1 millions de dollars. Mais les Hurricanes lui ont offert une offre d'un an seulement. Et ils auront le temps de voir si après ça, on augmente son salaire, on lui donne un contrat à long terme. Alors, il y a toutes sortes de dossiers d'enjeux dans ceci, mais une chose qui est claire, c'est la revanche des Hurricanes.
C'est la revanche. Je te demande rapidement, comme ça, là, n'hésite pas, là, pense pas longtemps, est-ce que tu crois que le Canadien va accoter cette offre ou va dire non, on le laisse partir?
Moi, je pense qu'il le laisse partir. Deux raisons. Je pense qu'il y avait de l'incertitude au sujet de Kotkaniemi. Ils n'ont pas réussi vraiment à créer un peu cet engouement qu'ils ont autour de Suzuki ou autour de Caulfield. Ça, c'est mon opinion. Et d'un autre côté, ils n'ont pas les moyens sous le plafond salarial actuellement. Il faudrait qu'ils fassent quelques autres transactions pour libérer de l'espace pour le payer le 6,1 cette année. Alors, à mon avis, ils vont le laisser partir.
Les internationaux de tennis des États-Unis s'amorcent demain à Flushing Meadows. Et vraiment, on peut le dire, ce tournoi, tous les yeux seront tournés vers Novak Djokovic.
Oui, Paul, c'est quand même le retour à la normale complet. Parce que ça va être à pleine capacité. Et quand je parle de capacité, rappelle-toi qu'à Flushing Meadows, il y a deux stades gigantesques. Le Louis Armstrong Stadium, l'ancien stade principal, mais devenu le deuxième stade, qui accueille 14 000 spectateurs et avec un toit en plus. Et surtout, le Arthur Ashe Stadium, le plus grand stade de tennis au monde, 23 700 places. Alors, ça va être New York à son meilleur, ça va être du bruit, ça va être des matchs très tard, une foule survoltée. Puis je pense que c'est ça que le tennis a besoin pour créer un peu cette énergie qui est nécessaire. Puis New York et le US Open terminent la saison des Grands Chelems et de grande façon, de façon éclatante. Puis en plus, comme tu l'as dit, les yeux sont rivés sur Djokovic. Parce que depuis Rod Laver en 1969, il n'y a jamais eu un joueur homme qui aurait gagné les quatre tournois du Grand Chelem consécutivement dans la même année. Steffi Graf l'a réussi du côté des femmes en 1988, y compris la médaille d'or olympique. Mais chez les hommes, c'était quelque chose d'absolument impossible, Paul. Alors, on va voir si Djokovic va être capable de résister et de profiter de l'absence de Rafael Nadal, par exemple. Il a gagné quatre fois. Voir s'il est capable de résister aux jeunes, à Zverev, à Tsitsipas, à Medvedev, et gagner ce tournoi tant attendu.
Et il y aura de l'ambiance, Ray, parce que 100% des sièges seront disponibles, occupés, mais avec preuve de vaccination cette année, je
pense. Oui, c'est ça. Oui, il faut que tu aies ton code de QR.
Si ouais, ça fonctionne comme ça là-bas, oui.
Jusqu'à vendredi, Paul, imagine-toi, là, il n'y avait aucune exigence par rapport à la COVID.
Ah non, là, non.
C'est littéralement dans les 48 dernières heures qu'ils ont mis en place, ça prend ton premier vaccin, et un test négatif dans les 72 dernières heures. Alors, honnêtement, il s'étare un peu la réaction. Puis ça va embêter des gens qui avaient déjà acheté leurs billets, là, puis qui ne sont pas vaccinés. Fait que ça va compliquer les choses. Mais bien sûr que c'est la bonne chose à faire. Mm-hmm. Parce que s'il y a une chose qui est claire, c'est qu'on a réalisé, si tu te rappelles, à la finale de l'Euro en juillet, là, avec 65 000 personnes au stade Wembley à Londres, c'est devenu, comme on dit en anglais, Paul, un super spreader. c'est-à-dire un événement qui a contaminé Absolument. Des milliers de personnes qui n'étaient pas nécessaires.
Et là, on arrive à une période de l'année où tous les sports vont se chevaucher, ou presque. Et Ray, ça m'amène à cette réflexion suivante. Est-ce qu'on va pouvoir tenir le coup dans les événements sportifs américains, compte tenu que 15 États sur 50 battent des records au niveau des nouveaux cas au quotidien. La Floride, c'était plus de 26 000, notamment. 15 États qui battent des records au niveau des hospitalisations. Et on arrive à un moment critique. On est en match pré-saison dans la NFL et les matchs de football universitaire également qui battent leur plein, là.
Paul, je suis obligé de te dire que honnêtement, ça ressemble beaucoup à l'an dernier. Il y avait eu comme une période où on était plus calme durant l'été, puis ça avait repris, comme tu le sais. Puis là, on se retrouve au même endroit. C'est certain qu'il y a un grand nombre de gens vaccinés, puis des fans sportifs, puis des équipes. Mais la NFL n'oblige pas les joueurs à être vaccinés, mais il y a des pénalités très fortes si on n'atteint pas un seuil, tu sais, de 85 à 90 par équipe. Mais là-dessus, il y a un enjeu énorme. C'est que ça se peut qu'il y ait des matchs qui soient affectés, remis, annulés. Ça se peut qu'il y ait des sommes d'argent importantes des diffuseurs qui soient perdues. La NFL va agir de façon très sévère. Mais les universités américaines, l'an dernier, ont perdu une tonne d'argent.
Ah, ben,
il
n'y
avait pas tous les matchs pour toutes les conférences. Tu sais, tu te rappelles de la Big Ten, par exemple, qui a commencé sa saison à la fin octobre.
C'est vrai.
Alors, c'est vraiment contrariant ce qu'on regarde actuellement parce qu'on ne pensait pas se retrouver de nouveau là. Mais il y a une résistance côté des vaccins, particulièrement chez les moins de 30 ans. Ça crée cette situation-là qui est indésirable.
Donc, ça va être une histoire à suivre, en développement. On n'est pas sûr de rien. Et en principe, Ray, on doit débuter une saison normale de la Ligue nationale de hockey début octobre. 82 matchs.
Oui, puis en principe, on s'attend comme spectateur au Québec à être admis au Centre Bell à capacité. Parce que les équipes de l'Ouest de la Ligue nationale se sont entendues avec le gouvernement pour insister sur la preuve vaccinale. C'est ça que ça va prendre, Paul, partout. C'est fini le temps de la carotte. C'est le temps de sortir le bâton et s'assurer que tout le monde soit vacciné.
Alors, tu vois, Ray, Thérèse et moi, on est allés au football vendredi soir au centre Percival Molson. En 21 mois, moi, c'était ma première sortie, j'étais avec mon fils aussi, où on avait du monde, des milliers de personnes autour de nous. Ça faisait du bien, très certainement.
Oui,
hein, Thérèse?
Oui.
Tout le monde a été de bonne humeur, belle ambiance pour le football, plus de 14 500 spectateurs. Mais déjà, Ray, il va falloir tenir compte qu'au prochain match local des Alouettes, il faudra le passeport vaccinal.
Tout à fait. Puis tu as vu ce qui se passe dans la Ligue canadienne. Les Elks d'Edmonton, avec Toronto, ont déjà vu un de leurs matchs annulés. Ils savent pas s'ils vont être capables de le reprendre. Il y a une douzaine de cas chez les Elks à Edmonton. Ça va vite dans une équipe de football, Paul. Vraiment, parce que les joueurs sont très près physiquement l'un dans le vestiaire et sur
le terrain. Et hier, on a eu une belle preuve. Les Carabins de l'Université de Montréal ont joué contre le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Ils ont gagné, d'ailleurs, les Carabins. Mais ils ont eu un cas positif cette semaine. Puis c'était, excusez l'expression, mais ça dit ce que ça dit, c'était touch and go. On savait pas si le match était pour avoir lieu. Donc, ça va être encore un automne de doute.
En tout cas.
Ouais.
Mais Paul, ce que je te dirais en conclusion, c'est que oui, il va y avoir des doutes, oui, il va y avoir des obstacles, on va trébucher. Mais on est un an plus intelligent, plus wise, si tu me permets, à comment traiter ces situations-là dans le sport. Donc, je pense que tout le monde est plus expérimenté, puis tout le monde dans le sport veut jouer. Donc, on va imposer des contraintes très difficiles. Fait que je pense qu'on va y arriver, mais on va trébucher en cours de route, c'est sûr.
Merci, Ray. Bonne semaine.
Salut, bonne semaine, tout le monde.